Leggi con sopra l'iscritto che da noi c'è anche con cosa. Noi siamo l'iscritto nemmeno a chi è di noi. Anche a chi è un vero e di rimondazio magico del Stockholder a che vera un po' più di scelta mia vincita che vede a Schaffer. A te il figlio del libro, debba leggi a chi è come un altro rotolato e danno che tu le potete vedere a scelta. Rimondazio se le libro tutte le intrazioni magiche. Rimondazio evidenzia un po' di parola radio magico da en partenariat avec l'association PNT Littérature. Allez.
Enfin, je ne lisais pas. Je pensais que c'était une activité réservée à mes grands-parents, mes parents et ma sœur. Ils partageaient tous une chose en commun. Ils aimaient ou avaient aimé l'école. Moi, non. Enfin, pas pour les mêmes raisons. J'aimais mes copains d'école et quelques matières, mais pas davantage. J'avais toujours l'impression de devoir bien faire et, pour la lecture, de devoir bien lire. J'en avais déduit que la lecture était un truc de vieux ou d'élèves appliqués. Et même si j'étais sensible à quelques arguments pratiques, un livre tient dans la poche, il ne se casse pas, n'a pas besoin de piles ni de manettes et peut servir de dessous, de plat, je n'étais pas convaincu. En revanche, j'adorais les catalogues, faire la redoute, les trois suisses. Et j'aimais bien lire des BD le soir avant de me coucher. L'histoire voudrait maintenant que je vous dise qu'un jour, une gentille fée m'a offert un livre que j'ai adoré et que celui-ci m'en a fait aimer beaucoup d'autres. Seulement, ce n'est pas tout à fait le cas. Mon père m'a effectivement offert un livre, Marcelin Caillou, le simple. Et je l'ai lu, relu. Et re-relu. Mais à l'époque, je pensais que c'était le seul bon livre sur terre, un peu comme la vache qui était le seul bon fromage. Peut-être parce que dans ma famille, les livres étaient trop écrasants. À une époque, ma mère dévorait 3 livres par jour. Elle s'enfermait dans sa chambre, tirait les rideaux et se retirait du monde. Je la traitais de malade mentale et lui proposais de descendre voir des gens au quartier. Mon père lit, écrivait des livres et aimait lire, mais il en parlait comme d'un savoir, une culture acquise après de nombreuses années et inaccessible. Mais de toute manière, je préférais regarder la télé, feuilleter mes catalogues et jouer avec mes amis. Seulement voilà, un jour, je me suis mis, moi aussi, à écrire et j'ai compris ce qu'il y avait dans les livres, des êtres humains. Fromage et dessert, donc extrait de fromage et dessert, texte de Cola Gutmann, publié encore dans le collectif Livre et le propre de l'homme, l'ensemble de témoignages et réflexions de 50 auteurs du livre pour l'enfance et la jeunesse, paru en 2011 à l'école des loisirs. Voilà encore, madame, monsieur, une bonne façon de démarrer l'émission de ce soir avec une dizaine de minutes de retard, mais nous sommes très heureux de vous retrouver avec le même plaisir, le même sourire pour cette nouvelle aventure à travers les mots et les pages. La technique, toujours, nous avons l'infatigable Willem, Joseph, et puis la présentation, Simonini, Pierre Hubert-Chave, et moi, Julien, son petit frère. Bonjour, bonsoir, les amis, bonsoir, Hubert-Chave.
Bonsoir, Julien, son petit frère, bonsoir, Mimini, bonsoir à tous les auditeurs de la
vie. Bonsoir, Mimini, Pierre. Voilà, le décor du livre n'est toujours le même, rien de changé, bien rapidement. Quelques éléments d'info dans la rubrique papier livre, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, je voudrais attirer votre attention sur la tenue de la toute prochaine, la 14e édition du Festival de théâtre 4 chemins, qui aura lieu du 20 novembre au 2 décembre avec comme invité d'honneur la troupe de théâtre Oudizier. Et puis, il y a les assises sur les bibliothèques. Les assises ont démarré aujourd'hui à Jacmel, la première conférence satellite. Donc, les assises sur les bibliothèques, c'est une initiative de l'ABDA, l'Association des bibliothécaires, documentalistes et archivistes d'Haïti, avec des partenaires comme Bibliothécom et autres. Et puis une dernière information pour clore ActuLivre, eh bien c'est la 68e édition du Salon du Livre de Francfort qui aura lieu du 11 au 15 octobre 2017. Et eh bien comme l'année dernière, l'Aigle Édition prendra part à cette foire, à ce grand salon, la plus grande foire du livre qui réunit tous les éditeurs, les professionnels du livre, éditeurs, illustrateurs, correcteurs, et les maisons qui s'occupent de vente de droits. Et bien, c'est le salon où on discute droit, vente de droits, achat, tout ce qui a rapport avec le livre. Et bien, c'est du 11 au 15 octobre, la semaine prochaine. Notre directrice des finances, Néline Pierre, représentera l'Aigle Édition à ce salon où tous les livres de l'Aigle Édition seront exposés sur son stand. Et puis, 4 de ces titres ont été sélectionnés pour être exposés sur le stand du Bureau international de l'édition française. Et nous remercions favorablement, puisque c'est à l'initiative du BIEF, le Centre national du livre, CNL, et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et puis l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, dont l'Aigle Édition est membre. Place à présent à Myrline Pierre, à Robert Charles pour la présentation de sa chronique.
Nous allons donc parler d'un site littéraire, le site de son continent. Je vous propose une interview sur les écrivains haïtiens et le prix des 5 continents. Les lecteurs et les critiques littéraires s'accorderont pour dire que les 10 dernières années constituent une période riche en production d'œuvres romanesques haïtiennes de qualité, mais surtout une période de reconnaissance internationale pour la plupart de nos écrivains. Les plus grands prix littéraires français et francophones ont plusieurs fois distingué un roman haïtien. De l'énigme du retour de Daniel Laferrière à l'ombre animale de Mackenzie Hossel, en passant par bien des lignes de l'enfance, les écrivains haïtiens viennent à la côte. De tous les prix littéraires de l'espace francophone, il y en a quand même un qui m'intrigue, et je dirais même qui intrigue un ensemble d'auteurs haïtiens. En 15 ans d'existence, aucun écrivain haïtien n'a réussi à obtenir le prix des 5 continents décerné par l'Organisation internationale de la francophonie tous les ans. En 2009, le roman Bien de lune de Yannick Lyons fait partie des 10 romans sélectionnés par le jury. C'est finalement Kossi Efoui, écrivain togolais, qui reçoit le prix. En 2015, l'espoir est revenu avec le roman Denis Prophète, Le bout du monde est une fenêtre. C'est Kango Ainsi, très beau roman de Jean Bofane, qui est distingué. Cependant, cette année, jamais la chance n'a été de notre côté, puisque 3 romans haïtiens étaient finalistes sur 10. Avant que les ombres s'effacent de Philippe d'Alembert, rapatrié de Mélanie Sauvé, l'étang de la cruauté de Gary Victor. Même les amateurs de Borlette diront que la chance était de notre côté. Mais c'est finalement l'écrivain Yamel Manali qui reçoit le prix des cinq continents pour son roman La masse afghane. Il faut dire que le seul écrivain, je dirais, de certains journalistes et critiques littéraires a réussi à publier ce prix, et bien siégerai au comité de sélection de ce prix. Voilà un petit numéro sur une petite histoire de 15 années des écrivains haïtiens et du prix de 5 continents. Je suis avec vous pour la suite.
Merci, Weber Charles. Donc, j'ai beaucoup aimé la fin de cette chronique. Le seul écrivain haïtien qui aurait eu ce prix siège et a été une fois président. A été une oui, Haïti, on sait
que.
L'île Maurice a eu le prix. Tout à fait. Voilà, on se demande pourquoi jusqu'à présent Haïti, en fait, ne peut, aucun écrivain haïtien ne peut partir avec le prix des cinq continents. Alors qu'on sait que dans les histoires de prix, en fait, tu l'as dit, quand on est président du jury, on a droit de veto. On peut imposer son livre, on peut imposer l'écrivain et son écrivain à soi. Donc, Haïti a présidé ce prix pendant 2 ans et jamais, même une fois pendant ces 2 ans, parce qu'il y a au moins 2 Mauriciens, si je me rappelle bien, à avoir le prix, Amal Setoud, et puis le Clésio qui est président aussi du jury, donc il a fait de tout son mieux pour remettre un prix à un de ses compatriotes. L'année, en fait, en 2009, il y avait 2 Haïtiens, Yannick Lahens et puis Gary Victor. Cette année, il y a 3 Haïtiens et il y a un Haïtien dans le jury qui peut décider, on l'a bien dit, puisqu'on connaît très bien l'histoire de ces prix. Et 3 écrivains et on est passé encore à côté et c'est dommage. On a déjà eu le Goncourt, le Renaudot, le Midi. Le prix féminin. Il reste le prix des 5 continents. Mélanie Pierre, nous arrive avec ta chronique.
Thank you.
Merci Emeline Pierre et pour ce retour sur Guillaume Inattendu, qui n'est pas uniquement un roman d'amour, qu'on a l'habitude, d'entendre des gens parler de ce roman à la radio ou dans les activités autour du livre. Guillaume Inattendu, c'est plus que ça. C'est un roman qui propose un regard sur la société haïtienne de nos jours. Donc, merci et Mélanie Pierre. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le 8 octobre 2017 et nous recevons le directeur de la lecture publique de la Direction nationale du livre, DNL, Joseph Chanoine Charles, qui a accepté de faire un passage à l'émission de ce soir. On va parler de lecture pour tous et de lecture publique. On sait que la lecture, c'est une activité et intellectuel, ça participe au développement de la personnalité, au développement de l'individu, et ça permet en même temps d'acquérir la culture, une langue, si on veut. Donc, Joseph Chanoine Charles, nous sommes très heureux de t'accueillir à l'espace Libre 9 ce soir, et bienvenue.
Merci, je suis direct à moi. Bonjour, bonsoir. Gilbert, bonjour, et bonsoir aux auditeurs. Et c'est un plaisir d'être là et de répondre à cette question.
Alors, Joseph Chanoine Charles, se porte bien à bien vous regarder. Et comment se porte le livre?
C'est de me porter bien. Non, dans ce pays, on ne peut pas se porter très bien. Comme il y a toujours des frictions, il y a toujours des demandes, des ennuis. Et bien sûr, le livre se porte en image du pays. Moi, j'ai toujours dit que le livre se porte un peu mieux que le pays. Parce que la culture, c'est quand même le dernier rempart qui nous aide à rester vivants dans ce pays, qui nous aide à encore exister, surtout. Le livre, malgré les difficultés auxquelles on fait face, quand même, on tient le coup. Et là, on vient de parler des prix. Et Haïti est quand même toujours présente dans les histoires de ce monde, et présente de façon très positive et dans les nouvelles, et c'est grâce à la culture, grâce au livre, et peut-être un petit peu moins au sport après. Bizarrement, c'est ces deux secteurs qui ont un pourcentage beaucoup, très très faible au niveau de notre budget. Le sujet très actuel aujourd'hui, le budget national. Donc, et voilà, comment peut-on dire qu'on est un pays de culture, un pays qui vit à part tout ça?
Mais paradoxalement, on dit souvent que Haïti, c'est une terre d'artistes, un pays de littérature.
Un pays où il y a une culture très vivante. Et encore, on parle en bien de ce pays, parce que généralement, les nouvelles, c'est des très mauvaises nouvelles, des très mauvaises images qu'on se trouve autour de ce pays, c'est grâce à cette littérature, c'est grâce à la culture. Et justement, pour y parvenir, on doit avoir les moyens.
Alors, lecture pour tous et lecture publique. Alors, parlant de lecture publique, Joseph Chanoine Charles, alors, c'est quoi, au fait, quand on dit lecture publique?
Lecture publique, c'est un pas, si vous voulez, une grande partie de politique publique. En matière du livre et de la lecture. Justement, la DNL, comme organisme autonome, doit avoir un document de politique publique, une partie pour le livre et une autre partie pour la lecture. Okay? Et ce document a été quand même construit, monté avec beaucoup de difficultés, Et je crois que les difficultés qui ont jalonné la question de ce document ont permis de voir que quelques années plus tard, il y a beaucoup de choses à corriger parce que moi j'avais certaines divergences au niveau de ce produit entre guillemets fini. Parce que
produit entre guillemets fini.
Oui, c'est pas fini parce que d'abord il y a eu les assises en 2011.
Est-ce que vous voulez parler du document de mise en œuvre de la politique publique du livre d'Alexandrin?
Exactement. Ça devrait être le produit et les actes, bon, à partir des actes des assises tenus en 2011 sur la côte, j'attendais avec beaucoup d'acteurs de la chaîne du livre, des libraires, des distributeurs, éditeurs, beaucoup de monde était là, moi je l'étais, c'est pas encore la dernière. Et après les assises, il y a eu certains consultants qui ont été mandatés pour produire le document. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de gouvernement, un changement de direction, et voilà que ces consultants ne voulaient plus continuer à travailler avec la nouvelle direction, parce qu'ils ne voulaient plus continuer, justement. Ils devraient trouver d'autres personnes pour continuer le travail. Ce qui arrive, c'est que les personnes qui produisent le document n'étaient pas aux assises. Donc, il fallait reconstituer à partir des documents, parce que en fait, les documents étaient publics. D'ailleurs, c'était disponible sur le site du ministère de la Culture, mais c'est plus disponible, je ne sais pas pourquoi. On va sur le site, on ne va pas trouver les actes de ces assises. Et là, les nouveaux consultants ont dû pas refaire le travail, mais en quelque sorte revoir beaucoup d'acteurs pour colmater certaines brèches.
Pourquoi avant tu avais dit beaucoup d'acteurs, maintenant beaucoup d'acteurs, pourquoi pas les acteurs?
Et parce que sur la durée, il y a eu des problèmes. C'est des problèmes parce que je n'ai pas travaillé directement de façon formelle avec les consultants, mais je les ai parlé quand même. On a parlé, on a discuté, parce qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. C'est-à-dire que, soit c'est l'hiver, on a rendez-vous cet après-midi pour discuter un peu, parce qu'il y a c'est un formulaire d'exécutionnement, et puis les rendez-vous est raté, après c'est raté, après trois rendez-vous, donc on a laissé tomber ou pas. Il devrait avoir d'autres actes pour que au moins tous les secteurs soient représentés, et en plus pour produire un document qui soit validé par tous les secteurs. Et est-ce un coup raté, le mot est fort, mais c'est je veux voir de préférence de façon plus positive, c'est un grand pas, mais qui n'a pas été totalement franchi. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut dire aussi que même si on devrait avoir un document tout à fait. Parce que là, j'avais dit quelque chose, parce que, en même temps que la DNR produit ce document de 2009, mais il faut également qu'il y ait une politique culturelle. C'est-à-dire que la DNR, c'est quand même une institution qui travaille sous l'obédience du ministère de la Culture. C'est-à-dire que ce document doit s'inscrire de façon formelle et dans un plan global d'une politique culturelle. On sait que c'est que jusqu'à présent, le ministère de la Culture n'a pas de politique culturelle qui a été validée ou votée. Il n'a pas de règlement, il n'a pas une loi cadre pendant 20 ans.
On est toujours dans l'informel.
Justement. justement, c'est de voir, on a parlé de l'audio, que des fois le ministère se comporte comme un opérateur culturel, concurrençant le opérateur, on peut voir un petit programme parti, un petit programme voilà. Ce que ça ne devrait pas être. C'est-à-dire que quand on travaille sans un plan global, un plan formel, une politique publique, c'est-à-dire qu'on fait une politique publique au niveau de la culture, on voit de façon globale où est-ce qu'on va, c'est-à-dire que voilà le plan pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant les 15 prochaines années, et puis là on s'y met, et tous les acteurs de la chaîne s'y mettent pour réaliser ce plan, là on va faire des coups.
Tout à fait, et Chavrin, j'ai bien compris tout à l'heure ton propos, en disant que le document, c'est un document rempli avec beaucoup de difficultés, et que mais finalement le document est là, et c'est pas donné que c'est un document de politique, c'est pas un document d'études, c'est-à-dire que c'est pas une thèse, une fois, c'est un document politique qui devait orienter des actions. Est-ce qu'on est à ce niveau-là où ce document est un document de référence pour la politique publique du pays, pour orienter ou encore pour élargir la stratégie de politique publique dans le pays, ou est-ce que c'est un document totalement à refaire?
Non, ce n'est pas totalement à refaire parce que ce document donne de grandes orientations et ces orientations au niveau de la DNL. Et ça devait être mal, on n'a pas pris. Mais c'est sûr qu'on fait face à des difficultés parce que le problème qu'il y a à la base, c'est que dans ce document, il est prévu de créer un fonds pour le livre. Un fonds, ça veut dire que pour créer un fonds, ça doit être d'abord un projet de loi émanant du ministère de la Culture, voté au niveau du Parlement pour créer ce fonds pour le livre. C'est-à-dire que la DNL a aussi pour mission d'accompagner les acteurs. Par exemple, les éditeurs, les maisons d'édition, normalement, doivent être pas totalement subventionnés. Doivent recevoir quelque chose de la DNL.
À quel point on en est?
Mais pour le moment, c'est à partir de ce fonds, mais on n'a pas encore créé les fonds. Parce que la DNL, à partir de ce budget très maigre, est dans l'incapacité de fonctionner.
Si on revient un petit peu sur le document, la question de Weber Charles, est-ce que, et comme il a dit, c'est pas une thèse et puis on devrait finir en mettre dans un tiroir ou dans un coin. Est-ce que la DNL utilise le document, fait référence des fois
à ce document pour pouvoir agir, sinon si on n'a pas ce document comme guide, on fait des coups.
Oui, parce qu'il y a tellement il y a plein de choses qui ont été dites dans ce document. Et que jusqu'à présent, je vous dis que la DNL s'en sert, jusqu'à présent,
on n'arrive pas à voir concrètement
voilà.
Ce qui est fait. Chacun pourrait nous donner des documents, des actions qui sont
voilà.
Au niveau de Madrid, je peux donner beaucoup d'actions qui sont prises, mais c'est sûr que les acteurs, au niveau des acteurs et de la chaîne du livre, c'est-à-dire ça va prendre du temps, ça va prendre vraiment du temps avant de voir les résultats et d'appliquer totalement
les documents.
Les objectifs de ce document. Mais comme je dis par exemple pour l'accompagnement des éditeurs, là maintenant on ne peut pas, mais ça on en parle. Il y a d'autres choses qu'on doit également faire pour les livres, l'éducation généralement, l'éducation. Et pas à la lecture, mais passons à la création. C'est-à-dire que de subventionner des projets.
Bon, je vois qu'on est en train. La DNL organise un concours chaque année.
Oui, là,
c'est bien le prix qui l'obtient. Mais revenons encore un petit peu sur le document. En dépit des failles et qu'on retrouve dans le document. Toi, tu l'as dit au départ que ça a été fait avec beaucoup de difficultés, puisque et les acteurs, tous les acteurs qui opèrent dans le domaine du livre et dans la culture n'ont pas été contactés. Et même quand vous avez fait appel à d'autres consultants pour pouvoir, est-ce que je dois dire, reprendre, refaire ou terminer,
il y avait des consultants en 2011. Oui, terminer parce que les consultants qui étaient d'abord qui étaient embauchés avaient commencé le travail. Le travail. Oui, justement, il y avait un travail qui a été commencé après l'invasion.
Est-ce que vous, Jean, vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait, et pardon, du travail?
Bon, me connaît ça, je peux avoir une satisfaction à un certain degré, mais moi, personnellement, me connaît ça, et généralement, pas satisfait. De travaux intellectuels, il y a toujours un confinement à faire.
Non, là, et c'est un travail plutôt technique.
Oui, c'est un travail.
Et, par exemple, il y a une partie où il y a un tableau qui présente les catégories de bibliothèques, libraires, les institutions qui évoluent dans le domaine. Là, il n'y a rien et d'intellect. C'est purement technique. Il fallait aller auprès des institutions, des opérateurs, aller dans les villes de province et tout ça. J'ai l'impression que le travail a été fait dans la zone métropolitaine, dans la capitale. Le travail d'introspection. À regarder le contenu, par exemple, du chapitre portant sur l'état des lieux des institutions qui travaillent dans le domaine du livre. C'est pas au prince.
Il n'y a que pas au prince.
Bien sûr.
Bon, c'est pas au prince.
Mais quand on parle de lecture publique, lecture pour tous.
Et dans quel chapitre il n'y a pas que pour Open qui a été posé, parce que là, je dois absolument parler d'un classe.
Oui, mais quand on regarde Robert Charles, on a beaucoup discuté sur le document, mais non, c'est uniquement pour Open qui est pris en compte.
Par rapport à l'hôpital. Aux bibliothèques qui fonctionnent ici, mais non.
Les maisons d'édition, les centres de lecture, les librairies, voyez, les événements. C'est pas au prince. Alors, est-ce que la DNL, est-ce que vous, je sais pas, et la lecture, le livre, c'est seulement pas au prince?
Et pas seulement pour Open. D'ailleurs, le programme qui est attaché à ma direction exclut, si vous voulez, un petit peu, cette grande ville. Parce que le programme c'est un programme national de l'économie qui d'abord vise les lieux les plus reculés. Et c'est pourquoi ça va être un peu difficile de trouver évidemment des classes dans des grandes villes. Et les programmes de lecture, ça passe par nos classes et nos bibliothèques. Bon, là maintenant, on n'en a pas beaucoup en termes de bibliothèques municipales, puisque là encore, c'est un problème au niveau de la culture, puisque depuis la création de la DNL, il devrait y avoir le transfert des bibliothèques municipales sous la direction de la DNL. Mais 10 ans après, c'est toujours pas le cas. Donc voilà, et c'est clair, depuis le décret le décret de 1984 avec un code de la liste, c'est prévu que la bibliothèque nationale travaille beaucoup plus dans la conservation. Et là maintenant, aujourd'hui, je ne veux pas, c'est tout au fait qu'ils sont également au niveau de la liste publique.
Les conditions de réalisation du document. Tout à l'heure, Chamois a évoqué que ceux qui effectivement les assistent ne sont pas finalement les consultants.
Non, ce n'est pas ceux, pas tous.
On avait dit,
ok, justement. Non. Les vaccins, c'était avec.
2011.
Et justement, et puis, il y a eu deux consultants qui étaient embauchés pour faire le travail.
À partir des vaccins.
Mais non. C'est deux autres. C'est ça que j'avais dit.
Oui, ça c'est une première chose sur la méthodologie, la condition de réalisation. C'est vrai que les consultants n'étaient pas au début du processus, ça c'est une chose. Et ma question c'est combien de temps disposaient les consultants pour pouvoir réaliser ce travail? Parce que moi personnellement, je connais les consultants qui ont fait ce travail. Je connais que quelques-uns ont une certaine idée à scientifique ou méthodologique. Et là, il y a la liste que je viens de l'Institut de Sécurité, qui est facile à faire de mémoire, on peut citer la bibliothèque d'événements et tout ça, mais un travail de politique publique demande une enquête en profondeur, un petit sondage comme ça, dans les villes de province, partout, qui prendrait quand même quelques temps à monter une liste de bibliothèques d'événements.
Non, là, il faut quand même trouver un document qui est disponible parce que la BNL, en 2012, avait réalisé une enquête sur les bibliothèques.
Oui, mais dans le document, l'enquête de la DNL n'est pas prise en compte, à ce qu'il paraît.
Combien de temps les consultants ont pris un travail sur le document? Est-ce que ça, c'était une année de production pour le document, deux ans, ou je ne sais pas, quelques mois,
Et de mémoire, je dois m'en rappeler, ça fait environ une année.
Une année, ils ont pris pour.
Non, oui, parce que, au fait, ça fait environ une année, parce qu'il y a des informations que je ne peux pas. Je ne les ai pas vraiment dites, parce que c'est la direction générale qui a travaillé avec les consultants. Donc, pourquoi? Parce que c'est que. Ce n'est pas les éditeurs techniques qui avaient commission de choisir les consultants.
Mais ils sont concernés quand même par le travail. Donc, les éditeurs techniques.
Justement, on est concernés. Et je ne veux pas dire qu'on avait pris ça, mais on était consultés au besoin.
Vous étiez à côté.
On était consultés au besoin, c'est-à-dire que les consultants sont embauchés.
C'est la direction générale qui avait toutes les informations?
Pas toutes les informations, parce que la direction générale a passé les documents, en fait, les actes des assises, et puis le premier jet du travail et des premiers consultants, et puis là, ils sont libres de. Ils avaient besoin de moyens, pas de moyens de déplacement et autres, donc ça, c'est l'administration. Et puis la question générale, et puis les deux sont techniques qui étaient consultés. Moi, j'ai été consulté pendant plusieurs, au moins, peut-être 6 mois.
Alors, maintenant,
qui me concerne,
maintenant, si vous devriez lancer réellement, effectivement, une caravane, est-ce que le mot est bien choisi? campagne de préférence.
Oui.
Voilà. Une campagne, parce que ça peut prêter à équivoque, une campagne autour de la lecture publique. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, Joseph Chanoine Charles, le document vous serait utile?
Et ce document est très utile.
Vous, dans le cadre d'une campagne de lecture publique,
est-ce que ce document
vous serait utile à quelque chose?
Et bien sûr que oui. Il y a deux choses. Parce que, quand même, les consultants ne sont pas partis de rien, quand même. Il y a des choses qui sont inscrites dans le document qui. C'est des programmes qui, d'habitude, ont déjà eu lieu dans les classes.
On est d'accord là-dessus.
Plus, il y a des propositions. C'est-à-dire que quand même, ce document est utile.
Oui, on est d'accord. On ne va pas le jeter, on ne va pas mettre à côté. Il y a des points qui sont importants. Mais quand même, je dis une campagne de lecture publique. Par exemple, si tu voudrais lancer ta campagne, par exemple, dans l'Artibonite. L'Artibonite, bon,
il...
Voilà, voilà. Est-ce que là, tu vas dire, bon, je vais dans l'Artibonite rapidement. Je n'aurai pas besoin d'aller dans l'Artibonite et faire un travail de dépistage pour voir combien de bibliothèques, combien de librairies, combien de centres, je ne sais pas, d'opérateurs culturels.
Donc,
j'ouvre le document.
J'ouvre le
document. J'ouvre ce document.
Non, de
propre document.
Je parle parce que, oui,
mais,
à partir de.
Oui, mais il y a des documents.
De l'assiette qu'il y a eu, moi, j'ai le document. Là, je sais que dans la Tibonite, il y a un tel nombre de librairies, un tel nombre de bibliothèques qui se trouvent dans telle commune, responsable, de téléphone.
Oui, mais
à la dernière, je trouve un soir.
Oui, mais ce que tu dis là.
Le document, est-ce qu'il y a des informations qui ne sont pas publiques et d'autres publiques?
Oui, mais non, ce document. Le document dont je parle là, c'est disponible, c'est public, mais là, bien avant ça.
Oui, mais ce document qui est le document officiel de référence n'a pas. Et les documents, les informations, c'est toi qui disposes.
Non, c'est pas moi qui. D'ailleurs, c'est disponible sur le site de la VNL et beaucoup d'étudiants ont ce document. C'est-à-dire qu'il y a c'est un document de politique publique, c'est sûr qu'on ne va pas trouver et dans les détails.
Non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Par exemple, si je veux savoir.
Telle bibliothèque, la librairie, c'est ici.
C'est ton état des lieux, Chanoine. Tableau présentant un panorama. Un panorama des catégories de bibliothèques, librairies, maisons d'édition, centres de lecture, événements existants en Haïti sur le livre et la lecture publique. Tu ne vas pas me dire ça, Chanoine.
Quoi, catégorie de
choses. Je veux dire qu'on parle de détails. Mais bien sûr, si ça doit être là-dedans. Un panorama. Alors, Chanoine et Charles. Et si là, je vais te poser une question qui n'aurait pas besoin que tu élabores.
J'élabore.
Écoute. Voilà. Écoute, Chanoine. Est-ce que tu, comme directeur de lecture publique et avec ce document sous le bras, est-ce que tu peux nous dire quel est, par exemple, je ne vais pas dire que tu peux ne pas avoir de réponse. Est-ce que, par exemple, le chanoine, pour un travail d'inventaire, tu es à même de nous dire, par exemple, on est en septembre, octobre, pour l'année 2017, l'année 2016-2017, par exemple, combien de maisons d'édition il y a dans le pays? Combien de livres ont été publiés cette année par telle maison d'édition? Quel est le prix moyen d'un livre?
Est-ce que moi je peux dire ça? Mais non, ça c'est exactement là, c'est dans le champ de Rousseau Colimont qui est le prix du livre. Ça c'est pas vous, c'est à moi. Vous pouvez avoir cette information. Ah, bien sûr que oui, mais ça c'est exactement. C'est où sont pour le monde, il y a quelques livres qui s'occupent d'un.
Est-ce qu'il va venir, par exemple, en 2014
on va quand même.
Non, mais ça fait longtemps qu'on est mort. Je suis très heureux que tu sois là et
tu es
venu. Parce que ça fait.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi-même, personnellement, je suis dans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un petit peu. C'est quand même de qui travaillent de façon en collaboration.
De façon isolée ou quoi?
Mais c'est très étroite. Mais quand même,
il y a... Mais tu peux savoir ça.
Mais c'est des informations et que Wilson Golemon dispose, parce que lui, il travaille directement avec les maisons d'édition. Par exemple, si on va avoir une
avec fois... toutes les maisons d'édition, vous pensez?
Je pense que j'ai
la
question. Par exemple, si j'ai rapport avec telle personne qui travaille dans une maison d'édition, ça c'est un rapport, parce que ce n'est pas un rapport
officiel.
Par exemple, il y a un concours qui est lancé, le concours, il y a des gens qui ont déposé
des manuscrits
dans des classes. Et quand on m'appelle, les responsables m'appellent, je leur dis d'appeler M. Colimont pour les assainir, c'est parce que c'est son travail. Moi-même, je m'occupe uniquement de la lecture publique. Voilà.
Okay. Bon, moi, il
est dans mon travail. Malheureusement, j'espère que je serai encore invité pour parler de ce que moi je fais en termes de programme et dans les classes.
À la lumière du budget qui vient d'être validé par le Parlement, est-ce que les classes se portent bien? Est-ce que les classes se positionnent de mieux en mieux dans le budget? Est-ce que pour l'année 2018, le ministère de l'Éducation doit avoir plus d'activités dans les classes, dans les classes, plus d'autres?
Et bon, on ne va pas avoir plus de classes, mais je suis sûr que les classes vont se porter mieux. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas le budget de moins en moins. On n'a pas beaucoup de budget, mais là, cette année, on va se concentrer sur plutôt la réhabilitation de ce qu'on a, de ce qu'on dispose en fait, et de disposer beaucoup plus de moyens pour les animations. Parce que ouvrir la bibliothèque, disposer des livres, ce n'est pas d'abord ça qui va amener les enfants. C'est ce qu'on fait en termes d'animation. C'est d'abord les animations qui amènent les enfants. C'est-à-dire que c'est pourquoi on développe un ensemble de programmes. Et là, cette année, on va beaucoup mettre l'accent sur la migration à la lecture avec les petits. Okay? Donc, le peu de moyens qu'on a, on va concentrer sur deux ou trois programmes clés pour pouvoir faire un bon là. Mais normalement, on devrait avoir beaucoup plus de moyens. Parce que justement, l'OIF qui est quand même qui est un partenaire de ce programme. Et c'est clair qu'au fur et à mesure, elle va se retirer de ce programme. Et là maintenant, ce qu'on avait, par exemple, comme subvention, ce que moi j'avais de l'OIF au début, mais on en a plus maintenant. C'est que les cartes d'abonnés, ça nous venait directement de l'OIF qui nous envoie. Mais maintenant, c'est clair que l'OIF nous dit de fabriquer sur place. Et avec nos propres moyens. Mais justement, oui, après, ça fait 20 ans quand même. Ça va faire 20 ans.
On est quand même capable de prendre la main de dessin, pas besoin d'un bailleur extérieur qui va partir de ce point-là. Je suis d'accord sur ce point, mais je suis un peu aussi un petit peu sûr les priorités. Parce que c'est une nature de priorité de la partie de famille, que je n'avais pas beaucoup de moyens, je n'avais pas assez de moyens.
Justement, avec ce programme de migration à la lecture, et là, on va. Ça, c'est la priorité des priorités. Après, bon, d'abord, il faut qu'il y ait des actions rapidement au début même de ce exercice. D'ici décembre, il faut qu'il y ait des actions concrètes sur les bâtiments. C'est-à-dire les bâtiments, ça, on doit vraiment rapidement réhabiliter parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont suivi de. Donc, en fait, c'est des anciennes maisons parce que tous les sacs ont été conçus. C'est-à-dire que ça, bon, quand je vais retourner, je vais en parler. Les communes qui ont reçu des sacs, ce n'est pas les plus limitées, c'est les communes qui ont disposé d'un espace capable d'accueillir. D'abord, c'était ça le
projet.
Le projet. C'est-à-dire, là, on vient ici, il y a un espace, on offre cet espace, voilà.
À Campévin, il y a le local est correct, plus ou moins.
Non, mais à Campévin, c'était le terrain qu'on avait.
Ah, okay.
C'était un terrain et le comité de gestion avait utilisé un plan.
Okay.
Et ce plan-là, le coût, c'était à 300 000 $. Mais la BNL, généralement, n'intervient pas dans la construction parce qu'on n'a pas les moyens de développement pour ça. Généralement, c'est des bailleurs qui nous aident pour la construction.
Effectivement, parce que, et à regarder dans le budget, là, j'ai fait un petit coup d'œil, vous avez seulement, et sur les 69 573 000 gourdes que vous avez, il y a seulement 10 millions de gourdes qui sont plaquées à l'investissement.
La plaque, ça fait environ 7 millions.
10 millions en investissement, donc, et le budget de fonctionnement, c'est à 59 573 073
000. Le gros lot, c'est pour payer les animateurs, les employés, donc, et les classes, et la promesse, c'est que tout ce qui se fait dans le classe gratuit, totalement gratuit, la classe intervient, un programme intervient, donc est subventionnée à partir du bureau central.
Eh bien, donc, cette année, la DNL ne va pouvoir rien réaliser parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous ne construisez rien réaliser non, en termes d'activité.
On ne va pas construire de nouvelles bibliothèques cette année.
Vous n'allez rien réaliser non plus
en
termes d'activité autour de quoi? Du livre.
Autour du livre, c'est ce qu'on va réaliser des choses. Là, et pour la fois, c'est généralement avec des partenaires. Et c'est des partenaires qui vont aider. Là, on commence à faire des demandes au niveau d'autres ministères et au niveau des partenaires privés. Et puis, il y a une partie de ce budget d'investissement, et presque la moitié qui sera consacrée uniquement au CLAC pour des programmes rénovation et puis des programmes au cours de l'année, là, pour recevoir un auteur et travailler avec les gens et puis les animateurs, ils ont toujours des activités. Par exemple, là, les 10 ont terminé avec les 21, avec les classes, et puis le 11, on reprend avec, on a de nouvelles collections centralisées. Et pour le reste du mois, on a deux grandes activités sur le mois sur la langue et la culture créole et également sur, autour de deux années. Est-ce qu'il va y avoir des conférences et des activités de la classe? Je m'assure de la coordination de tous les programmes qui sont dans les classes, également du travail technique. Parce que dans les classes, il y a un travail technique, c'est-à-dire que je dois assurer de la gestion des statistiques. Là, je dois au mois de septembre, parce que là, on recommence à partir de janvier, à partir de janvier, on renouvelle tous les abonnements. Pour les abonnés doivent rester. Donc là, je dois m'assurer de ce travail. Et du taux de traduction, des collections à reprendre totalement, des livres aller en désherbage. Et également, là, on a un plan trimestriel, et chaque trimestre, chaque classe doit avoir tout ce qu'elle a dit, des activités. C'est des activités qui se réalisent également avec des ressources locales.
Donc c'est toi qui approvisionne les claques en livres.
Et
à t'entendre parler là.
Non. J'ai fait des faux recommandations et jusqu'à présent la plupart de ces livres, l'OIF s'occupe de ces nouvelles collections. Par exemple, la nouvelle collection qu'on a, c'est un don de l'OIF.
Et les livres haïtiens.
On en a dans les classes, on a.
Oui, mais c'est toi qui s'occupe de l'approvisionnement en livres haïtiens. Parce que généralement, les ONG, quand elles donnent des livres.
Non, c'est pas comme ça. Et quand on a monté un classe, on achète les livres haïtiens et les livres étrangers.
Donc toi, tu t'en occupes.
Et bien sûr.
De l'approvisionnement.
Pas de l'approvisionnement. Il y a tout un processus. Et on est dans un circuit administratif. Là, si je fais des recommandations, et là, il faut faire le circuit et approuver, il faut approuver par l'administration, et puis là, on
fait ça. Ok, donc pas d'approvisionnement, mais plutôt c'est toi qui connais les besoins
de
telle plaque, de telle bibliothèque.
Je connais les besoins, parce que le plaque, c'est un bien et communautaire. D'ailleurs, il y a des choses qui sont je ne connais pas, qui ne peut être dirigé que par un local. C'est-à-dire que si on est de Saline, ça peut être dirigé que par quelqu'un qui vit à Saline. C'est un bien communautaire, ça doit participer. C'est-à-dire que c'est d'abord les lecteurs qui demandent, et puis les animateurs formulent la demande, et puis on dit voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire.
Très bien. Alors, nous sommes arrivés au terminus de l'émission. Et Chanoine, j'ai l'impression que tu avais plein de choses.
J'avais des choses.
Eh bien, tu reviens. Tu reviens certainement. Puisque les portes de Livre Neuf vous sont bel et bien ouvertes. Donc, nous étions, en fait, toute l'équipe, moi, Hubert et Myrline, nous étions très heureux hein, de ta venue ici, donc on se doutait, hein, on se doutait.
Bon,
bien sûr, parce que ça fait belle lurette, des années depuis qu'on invite la DNL et qu'elle boude de les invitations.
C'est pas ça, non, non, tu m'as envoyé l'invitation, moi je conduisais une fois et je l'ai vu, et puis je l'ai dit, voilà, et
voilà, donc je suis très content du fait que tu étais venu, Chanoine. Donc, merci. Donc, le fait d'avoir un regard critique sur une institution, sur des activités, donc, ça ne fait pas des ennemis. Donc, de préférence, ça devrait faire avancer l'institution ou la direction, peu importe ce qu'elle est. Parce qu'il faut du regard critique pour que les institutions fonctionnent comme elles devraient fonctionner. On aura toujours à avoir un regard critique sur les institutions qui travaillent dans le domaine du livre. Merci, Chanoine.
Merci, Guillaume. Ça a été un plaisir d'être là. Merci aux auditeurs. À bientôt.
Voilà, livre 9, c'est la fin. Donc, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir prêté oreille forte. Nous avons reçu Joseph Chanoine Charles, directeur de l'Éthiopie à la Direction nationale du livre. La technique, Williams Joseph, la présentation, Mélie Pierre, Robert Charles, moi, Julien Son, petit peu avec la compagnie de Fedna David qui était avec moi en studio. Donc, on vous donne rendez-vous à la quinzaine, voilà, et dimanche prochain, il n'y aura pas d'émission, donc on fait une petite pause, puisqu'il y a les préparatifs, Myrline sera au salon de Francfort dès demain, donc on fait une pause, on se revoit le dimanche qui sera 22 octobre 2017. Zappez surtout pas, hein, puisque Richard est déjà là pour les beaux parfums d'autrefois. Au revoir. Mash, 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 mash.